Donc, elle va se voyer comme des bains.
Ah oui.
Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes bien à la Générale car nous sommes mardi soir et c'est le MIGE, un mardi informel de la Générale, retransmis en direct sur Pinode. Est-ce que tout le monde ici sait ce que c'est que le MIGE? Il y a des nouveaux venus. Donc le MIGE, mardi informel de la Générale, c'est un cycle de conférences qui a lieu à la Générale tous les mardis soirs depuis le deuxième confinement. Donc en 2020, à l'occasion duquel on a étudié une revue qui s'appelait Pétrole Progrès et qui a donné suite à un cycle de conférences qui a pour thématique l'énergie, la résilience humaine face aux avancées technologiques, économiques, libérales, écologiques. On s'intéresse à des questions d'art et sciences, à des questions d'évasion fiscale, à plein de sujets différents. Et ce soir, on reçoit Louisa Selleret, qui va venir nous parler de son sujet d'étude et peut-être d'application qu'elle a eue dans la vraie vie à ce propos. Et je te laisse te présenter et présenter ton sujet.
Merci. Du coup, je suis récemment en fait diplômée d'une école qui s'appelle l'École nationale supérieure de création industrielle. Et cette école, elle m'a permis d'avoir ce temps de rédaction de mémoire où les sujets sont complètement libres. Donc peut-être qu'on n'a pas l'impression de voir le lien direct avec le design, mais moi, j'ai choisi de travailler sur les moustiques et enfin, je vais développer, mais voilà. Et en fait, cette opportunité du mémoire, moi, je l'ai vue comme une opportunité de lire de la pensée écologique. Et je voulais aussi croiser des savoirs différents. Et je pressentais que dans ce sujet des moustiques, c'était un sujet qui était à la fois, on peut dire, populaire. Voilà, on en parle un peu comme de la météo. On a des savoirs très différents. Enfin... Je pressentais qu'il y avait un flou autour des croyances, autour des moustiques. Je me fais beaucoup piquer. On m'avait expliqué que j'avais le sang sucré, mais voilà, j'ai des doutes sur la véracité de ces propos. Et je pressentais aussi que c'était un sujet qui allait peut-être m'amener sur d'autres territoires, comme le médical, la gestion des eaux. Enfin, voilà. Donc, je me suis lancée dans ce sujet et j'ai réalisé ce mémoire sous la direction de Clémence Mathieu, qui est une artiste, autrice et qui travaille beaucoup sur l'eau et sur la coordination d'Edith Hollower, qui est la responsable des mémoires à l'ENSI. Donc en fait, le moustique, je l'ai abordé, enfin j'ai fait le choix de ce sujet, enfin oui, je vous l'ai expliqué, mais... Enfin, je vais commencer par vous faire une petite base commune pour qu'on ait en tête ensemble ce que représentent ces espèces. Et donc, l'image que vous pouvez voir à l'écran, en fait, c'est une photo d'une ambre qui emprisonne un moustique. Et cette ambre, elle date d'il y a plus de 4 millions d'années. Donc, pour vous donner un petit peu un repère, c'est une ambre qui date du Pliocène, donc c'est... Le Pliocène, ça a été le théâtre d'événements majeurs comme la formation des calottes glaciaires, l'assèchement de la Méditerranée, la jonction des Amériques. Donc en fait, le moustique était déjà présent et assistait à tout ça. Et on peut voir à son aspect qu'il n'a pas vraiment évolué dans sa forme, ce qui est assez surprenant.
Voilà. C'est de la résine dans un
moustique. C'est ça.
C'est un moustique.
Ouais. Donc aujourd'hui, il existe plus de 3000 espèces différentes de moustiques. Donc en fait, pour comprendre les enjeux liés à leur prolifération, enfin la prolifération de certaines espèces, en fait, il faut comprendre quelques concepts clés de l'évolution. Donc une espèce, elle va évoluer avec des critères de sélection naturelle, de mutation, de dérive génétique, mais aussi de coévolution. Donc ça, c'est quand des espèces interagissent entre elles et influencent mutuellement leur évolution. Mais aussi de spéciation. Donc ça, c'est quand une espèce émerge lorsque des populations en fait se retrouvent isolées dans un environnement différent. Et ce qu'il faut retenir, c'est que chaque espèce de moustique est unique et a une écologie qui lui est propre. Et certains moustiques en fait ont évolué avec l'homme. Donc il y a un exemple assez frappant de spéciation contemporaine. Le Culex pipiens, c'est un moustique très commun qu'on croise tout l'été. Et en fait, des scientifiques se sont rendus compte que dans le métro à Londres, on retrouvait la présence d'une espèce qui était très proche du Culex pipiens. Et en analysant un peu ce phénomène, ils se sont rendus compte que en fait, certains membres de cette espèce étaient infiltrés dans le métro et étaient restés vivre dans le métro. Et avec ces conditions qui étaient nouvelles, avec la chaleur du métro, le fait d'avoir de nouvelles espèces à piquer, comme les rats et tout, le culex a évolué. Et en fait, rien seulement la présence de cette architecture et de ces espaces nous a créé des moustiques mutants, en fait.
Il a un nom
Oui, il s'appelle le Culex molescus. Donc, parmi en fait toutes ces espèces de moustiques, il y en a certaines qui sont vectrices de maladies et donc de zoonoses. Et en fait, voilà. Donc là, on a un socle commun sur ces espèces. Et moi, je voulais en savoir plus sur ce sujet et je voulais contacter des médecins entomologiques. Et en cherchant des contacts, c'est là que j'ai découvert tout un réseau d'agences de démoustication. Donc souvent, ces médecins travaillent dans ce genre d'agence. Et je vais essayer de rentrer en contact et je ne sais pas par quel miracle, mais j'arrive à obtenir un stage dans une de ces agences. Parce qu'en fait, ils sont dans une période de crise. On est en octobre 2024. Il y a une recrudescence de moustiques. Et ils ont besoin d'agents parce qu'il y a des saisonniers de moustiques. Et il manque. Enfin, je vais vous expliquer un peu les rôles qu'ils ont. Et donc, j'arrive à ce moment-là. Donc, je me fais un mois de stage avec eux pour remplir et du coup participer à leur mission. Donc, c'est assez génial pour moi d'être là parce que ça va très vite m'apprendre tout le vocabulaire du milieu et ça va me faciliter les échanges après avec les autres acteurs. Et puis surtout, je vais y découvrir le moustique comme je ne l'avais pas encore rencontré. Donc, en fait, sur le terrain, je suis formée à repérer des zones humides et à identifier, enfin, à faire des prélèvements de larves et les ramener au labo et j'apprends à les identifier pour identifier les espèces. Donc ça, c'est une vidéo que j'ai prise au labo en filmant l'ordinateur qui était relié au microscope. Et en fait, les enquêtes de terrain, donc ces enquêtes où on cherche de l'ocropie, en fait, elles vont me faire découvrir sous un nouvel angle l'espace urbain. Parce que comme en fait, on cherche de l'eau stagnante, on vient chercher des failles. Et en fait, je me retrouve parfois dans des lieux totalement incongrus parce qu'on nous donne accès à des espaces improbables. Et là, je vais juste vous relater une enquête qui était un peu spéciale, mais c'est une enquête qui a duré 7 heures et qui s'est déroulée sous la dalle du métro Invalides. Donc, je ne sais pas si vous voyez, devant Invalides, il y a des grandes pelouses. Et en fait, c'est une dalle et sous cette dalle, il y a tout un microcosme de travailleurs de la voirie. Il y a les stockages de la RATP, SNCF. Et il y a aussi un bout d'un commissariat. Et en fait, la société où je travaille, ils sont appelés parce que tout l'été, les agents qui travaillent dans cet espace ont été infestés de moustiques et ils n'en pouvaient plus. Et nous, on est seulement en octobre. Enfin, on arrive beaucoup trop tard, en fait. Donc, il n'y a déjà plus de moustiques. Mais ils veulent quand même qu'on vienne vérifier ce qui se passe parce qu'ils ne veulent pas revivre la même situation l'année suivante. Donc tout le monde est vraiment à cran et c'est assez drôle parce que ça a tellement saoulé tout le monde tout l'été que là, tout le monde nous écoute, on nous ouvre vraiment toutes les portes, il faut régler le problème. Et on sent que la tension est encore présente sur les bureaux, donc tout le monde est équipé à fond, on voit des moustiques écrasés sur les murs, enfin, c'est vraiment terrible. Et on va déambuler comme ça pendant 7 heures quand même dans tous ces espaces, toujours à la recherche de nos eaux croupies. Donc on vient comme ça, on a du matériel spécifique pour plonger en fait. Enfin c'est drôle, mais dans notre équipement de base, on a des louches en fait de cuisine aussi pour faire nos prélèvements.
Donc là, c'est vous qui percez la dalle de béton ?
Alors non, là on perce pas la dalle, il y avait déjà un trou. Mais en fait, c'est assez drôle parce que le jour où on a fait cette enquête, il y avait aussi un problème d'égout. Et on avait avec nous... en fait, on était deux à chercher de l'eau croupie, mais pas pour les mêmes raisons. Mais du coup, on s'est suivis comme ça, donc c'était parfait. Mais voilà. Donc là, je suis avec Kevin, la personne qui m'a formée. Mais on fait quand même soulever des dalles. Enfin, là, on y va quand même. Hein. Il faut vraiment trouver le problème. Et on finit par trouver un tombeau de moustiques. C'est cette photo, c'est la photo de notre source. On a découvert en fait dans ce couloir sombre qu'il y avait eu des travaux d'égout. Et ils ont en fait soulevé les dalles pour accéder à l'eau. Ils les ont remises, mais ils n'ont pas remis de joint. Et en fait, les moustiques arrivaient à passer entre les dalles et à pondre dans cette zone où il y avait de l'eau stagnante. Et c'était une zone qui était un peu laissée à... Personne passait par là et personne comprenait qu'il y avait de l'eau sous ces dalles et que voilà. Et là, on le voit pas sur la photo, mais le long du couloir, il y avait vraiment des milliers de moustiques morts le long des murs. Enfin, on était ravis quoi. C'était la découverte. Et en fait, au même moment, dans les médias, on parle de plus en plus du moustique tigre, notamment dans cet article du Monde qui parle d'une potentielle crise sanitaire à venir sur le territoire. Donc il estime dans 5 ans, sauf que c'était en 2024, donc il ne nous reste pas beaucoup de temps. Donc moi, cet article, il agit un peu comme un déclic et je comprends déjà que sur le territoire, il y a un moustique plus problématique que les autres, donc c'est le moustique tigre, car il peut être vecteur du chikungunya, de la dengue et du zika. Donc c'est un moustique qui est présent aujourd'hui en France métropolitaine. Et je comprends en fait que ce que j'observe sur le terrain, ça s'inscrit dans une transformation plus large des politiques de santé publique. Donc en fait, les agences, elles ont elles-mêmes transformé leurs services. Donc elles ne parlent plus uniquement de lutte de confort, comme ce qu'on vient de voir, mais elles vont commencer à parler de lutte antivectorielle. Et voilà, on ne cherche plus à soulager uniquement les habitants, mais il faut aussi prévenir d'une épidémie. Donc moi, je vais suivre les agents lors de ces enquêtes qui sont spécifiques. Donc en fait, pour comprendre quand une personne revient de voyage et est malade, va chez le médecin et on découvre qu'elle a le Zika, par exemple, le médecin déclenche une alerte à l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, qui en fait... va transmettre des données sur le patient. Donc on va lui demander tous les endroits que le patient, qu'il a visité pendant sa période de virémie. Et ça va créer comme ça des cartes avec des adresses. Et on vient délimiter un périmètre de 150 mètres autour de ces adresses. Donc 150 mètres, c'est le périmètre de vol d'un moustique tigre. Et en fait, avec des agents de l'agence, on se rend sur place à chaque point d'adresse que la personne a visité. Et on va enquêter sur tout le terrain, donc on va faire du porte-à-porte. Et notre objectif, c'est en fait... alors déjà, on fait des prélèvements sur place dans les égouts, mais notre objectif, c'est de rentrer dans les espaces privés. Donc dans les...
Ouais, c'est quoi les symptômes
de Zika ? De Zika, je pense qu'il y a des fièvres. J'avoue, je ne sais pas trop les symptômes. Vous sentez bien. Mais j'avoue, je sais pas. Mais en fait, c'est aussi un problème, le dépistage de ces maladies, c'est qu'on n'y est pas encore habitué. Et il y a des cas endémiques qui ne sont pas dépistés parce que les médecins en France métropolitaine ne sont pas habitués à rencontrer ce genre de... Donc voilà. Mais ils vont être formés bientôt parce que c'est la cata. Mais donc, pour en revenir à ces enquêtes, faire du porte-à-porte, c'est pas une méthode très efficace parce que les gens ont très peur, en fait. Ils veulent pas nous ouvrir, ils ont l'impression qu'on va leur vendre des produits chimiques en plus. Donc il y a même, on a une phrase qu'on dit à chaque fois, et c'est une phrase qui est construite pour interpeller. Donc déjà on dit, un de vos voisins a fait un signalement, donc là ils se sentent plus concernés, et on explique, je crois qu'on passe le mot maladie et tout, donc on les inquiète à fond, et après on peut commencer à parler. Et donc, parfois, on arrive à rentrer, à faire des prélèvements dans leur jardin. Et en fait, ce qu'on recherche, c'est vraiment voilà, des zones d'eau stagnantes. Donc, toutes les... Là, je vous ai mis un peu les classiques. Donc, il y a le collecteur d'eau de pluie. Tous les collecteurs d'eau de pluie qui ont été installés, c'est génial. Mais en fait, il n'y en a aucun qui est hermétique. Donc, c'est là, ça va vraiment devenir un problème. Les cimetières, c'est des zones vraiment très, très à risque parce qu'il y a plein de pots de fleurs qui sont laissés à l'abandon. Et les moustiques tigres pondent en fait dans très très peu d'eau, donc c'est idéal. Quand on avait un cimetière sur notre carte, nous on était trop contents, on savait qu'on avait trouvé des trucs. Après il y a toutes les bâches voilà, qui sont laissées à l'abandon, et surtout le pneu, parce qu'en fait il y a une théorie entomologique autour de l'arrivée du moustique tigre sur le territoire, et potentiellement en fait les livraisons de pneus venus de l'étranger, enfin l'importation de pneus, aurait amené le moustique tigre en masse sur le territoire. Et ça devient actuellement un problème, enfin un peu plus un problème, parce qu'avec le réchauffement climatique, la ponte en fait, du moustique arrive à ne pas... Enfin, résiste à l'hiver, parce que les hivers sont moins froids, et ça crée comme ça une prolifération encore plus importante que seulement l'arrivée par les pneus. Mais pour juste comprendre, en fait, le moustique tigre, il va pondre dans des zones où il sait qu'il y aura de l'eau un jour. Donc, il pond sur du sec. Et les larves, elles peuvent être en hibernation pendant à peu près 6 mois. Donc, c'est très compliqué, en fait.
C'est-à-dire que le moustique émet une hypothèse sur la zone où il va, en se disant, là, ça va être mouillé plus tard, ça vaut le coup.
Ouais, exactement. C'est délirant.
Je dépose ma progéniture là, et je sais qu'il y aura de l'eau.
Et le pneu, il l'a bien compris. Quand il y a de l'eau dans un pneu, en plus, c'est hyper dur à vider. Et ouais, c'était idéal. Donc, dans ces opérations, et c'est, voilà, je découvre tout un monde institutionnel. Toutes ces actions, elles sont mandatées par l'ARS et elles font en fait l'objet de nombreux échanges avant de décider d'un traitement chimique ou non. Donc là, je vous ai vraiment fait toute la carte décisionnaire d'échanges entre l'ARS. Ouais, elle est dans le mémoire, vous pourrez l'avoir plus près, mais voilà, avant de décider d'un traitement chimique qui est considéré vraiment comme la solution de dernier recours. Donc ça, ces photos, elles ont été prises en Île-de-France et voilà.
Tu peux décrire ce qu'on voit dessus pour les gens qui sont à la radio ?
Alors là, on voit une espèce de pick-up équipé d'un projecteur d'insecticide qui pulvérise sur des arbres. Et on voit aussi un agent avec un masque, une combinaison qui pulvérise cette fois à la main dans des buissons. Donc ça, c'est des actions de traitement qui sont censées lutter contre le moustique tigre, mais adulte. Donc dans une zone où on estime qu'il y a eu une personne malade et que sur place, actuellement, il y a des moustiques adultes donc en capacité de piquer qu'il faut exterminer. Mais ça, du coup, ça ne règle... Enfin, on vient traiter une zone, mais il y a toutes les larves que ce moustique a pondues. Donc la maladie, elle n'est pas transmise aux larves. Donc cette action-là, elle est vraiment faite juste pour lutter un cas de transmission, mais pas lutter contre le moustique. Voilà. Mais les agents qui réalisent ces actions, ils ont conscience que c'est des solutions qui sont, qui ont une efficacité qui va diminuer avec le temps parce que les moustiques développent des résistances. Donc, ça tue pas du tout que les moustiques, c'est vraiment très néfaste. Et avant de réaliser ces actions, ils font de l'affichage dans le quartier où ça va être réalisé. Donc, parce que c'est réalisé sur 150 mètres, hein, comme on l'a dit. Et donc, ils font des affichages quelques jours avant. Ils demandent aux gens de fermer leurs volets, il ne faut plus manger ces légumes, enfin, il faut vraiment les laver. Si vous avez des animaux, il ne faut pas les laisser à l'extérieur. Des poissons dans une mare, ça peut être risqué. Enfin, on en est là quand même, c'est des trucs... voilà.
Et puis, je précise aussi, ce qu'on voit, donc, c'est sur le pick-up, il y a une espèce de canon pulvérisateur de produits chimiques. Et en fait, il pulvérise sur des zones végétales. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il pulvérise suffisamment pour que tous les niveaux de la végétation, tout l'entremêlement qui protège à l'intérieur d'un buisson, on est très bien protégé. Et donc là, il faut que la pulvérisation atteigne le cœur d'un buisson, passe sous les feuilles, etc. Ouais. Donc, il faut vraiment mettre le paquet.
Il faut y aller, quoi. Et ouais, il pulvérise en fait les plantes parce que c'est là où le moustique tigre dort la nuit. Il vient se poser dans la végétation au frais. Parce qu'en fait, le moustique tigre, c'est un moustique qui est plus de jour. C'est pour ça aussi que ces actions sont réalisées la nuit. C'est pas uniquement pour limiter l'impact avec les gens, mais c'est aussi pour ça. Donc, en fait, ce que je constate, c'est qu'il y a aussi d'autres sociétés qui réalisent des actions de démoustication. Donc, il n'y a pas que les sociétés embauchées. Donc, c'est des sociétés privées embauchées par l'ARS, mais il y a d'autres sociétés qu'on peut appeler nous-mêmes. Donc, j'ai fait l'expérience d'appeler une société de désinsectification, d'ératisation, voilà. Et je me suis fait passer pour une cliente, enfin, une potentielle cliente, et là, moi, j'avais déjà notion de ce qui était interdit ou pas, parce que j'en discutais avec les agents. Et je leur ai dit n'importe quoi au téléphone pour voir jusqu'où on allait aller et qu'est-ce qu'ils étaient prêts à me vendre. Et donc, je vous laisserai lire, mais en gros, ils étaient... Alors moi, je les ai appelés, on était en octobre en plus, hein, mais je leur ai dit, je suis paniquée, il y en a plein à la maison et tout. Donc déjà, ils étaient prêts à pulvériser à l'intérieur de la maison, ce qui est n'importe quoi. Ils me disaient qu'ils pouvaient faire ça dans l'après-midi et que je pouvais revenir le soir même, même si j'avais un chat et des enfants et pas de soucis. Que c'était pas nécessaire de prévenir les voisins si on pulvérise dans le jardin. Enfin, en fait, c'était n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Donc c'est assez inquiétant.
Attends, je vais lire cette phrase. Donc c'est toi qui poses la question. J'ai aussi un chat. Est-ce que les produits sont dangereux pour lui? Quels produits utilisez-vous exactement? Vous savez, madame, il existe une centaine de produits. Nous utilisons des produits chimiques professionnels que vous ne trouverez pas dans le commerce.
C'est bien rassurant. Alors, j'ai aussi fait des collectes de produits insecticides destinés à des usages domestiques. Et ça m'a interpellée, en fait, le vocabulaire employé sur leur étiquette. Rapidement, en fait, la multiplicité des espèces est réduite à deux catégories, inspirant le dégoût et le mépris. Donc, on a les volants et les rampants. Et y a un vocabulaire qui est hygiéniste. Et en fait, il est sollicité pour évoquer l'idée que la vie qui grouille dans nos jardins, elle est sale, en fait. Et voilà, on est... Ouais, y a le savon insecticide, c'est n'importe quoi. Et pourtant, le moustique, c'est une clé dans la chaîne alimentaire. Il a un rôle pollinisateur, sachez-le. C'est aussi un décomposeur recycleur sous forme de larve. Voilà, donc il a une utilité, on le savait, mais voilà... On ne peut pas l'exterminer, en fait, c'est pas possible. Et ça, c'est une photo que j'ai prise avec un microscope d'un moustique que j'avais trouvé mort quelque part. Et, on peut voir tous ses poils sur son corps. Et, en fait, c'est une espèce qui a une capacité de compréhension et de captation de son espace qui est délirante. En fait, les moustiques, ils ont une vision thermique. Ils reçoivent sur, enfin, tous ces poils, c'est des récepteurs. C'est quand même des espèces étonnantes. Donc, à cette étape de la recherche, y a une question qui me traverse, c'est comment je fais pour que mon mémoire, ça ressemble pas à un rapport de stage, ni à un exposé sur les moustiques. Et c'est là qu'en fait s'opère une bascule. Donc, je vais pouvoir parler du moustique dans un contexte précis. Celui d'une potentielle crise sanitaire. Donc, cette direction, en fait, elle va me permettre d'organiser ma donnée et d'avoir un prisme sous lequel la confronter. Donc, ça me permet aussi d'emmener mon sujet sur de nouveaux territoires. Donc, ça ne va pas devenir moins précis, mais en fait, ça commence à dessiner une intention plus claire, donc celle d'anticiper des crises sanitaires et d'identifier des notions leviers où le design peut intervenir. Donc le moustique, ça devient une clé de lecture de nos modes de gestion de crise sanitaire et mon mémoire, il va prendre la forme d'un dossier d'enquête. Donc il est divisé en trois chapitres, donc le sujet de la crise, les méthodes de gestion et la réaction de la population. Donc cette structure, en fait, elle me permet d'entrer dans mon sujet progressivement et d'aller de la donnée brute vers une réflexion plus critique. Et... mon objectif, ça devient alors d'identifier des notions, des points d'entrée non conventionnels où le design pourrait avoir un rôle à jouer. Non, ça va être long. Mais je vais rentrer en détail, je vais faire des zooms. Donc, par exemple, en m'informant sur des protocoles mis en place dans d'autres États, face à la crise sanitaire liée aux moustiques, j'ai pu identifier une idée centrale. Donc, dans ce type de crise, en fait, le domicile, bah, il fonctionne plus comme un refuge, contrairement au Covid. On peut pas se confiner et être en sécurité. Donc ces espaces, en fait, peuvent devenir des lieux de prolifération et nécessiter des contrôles. Et ce questionnement m'a conduit à définir la notion que je nomme la porosité du chez-soi. Pour l'exemple, c'était aussi un peu... Il y a eu une crise, mais c'était pas l'homocystique, c'était d'autres maladies. C'était dans le Massachusetts. Et ça, c'était l'été 2024. Et il y a eu, en fait, des traitements chimiques, du coup... par Canadair, et en se rendant sur le site gouvernemental pour s'informer et pour... parce qu'en fait, ils proposaient aux gens de faire des demandes spécifiques pour qu'on ne traite pas leur jardin. Et quand on regardait ces demandes, alors déjà, les conditions étaient très galères, il fallait prévenir 15 jours avant, tout était fait pour qu'on n'y arrive pas. Et la solution qu'ils nous donnaient, c'était de signaler à la fin qu'on ait rempli tous les dossiers par des assiettes en carton, il fallait les accrocher autour de notre jardin pour signaler qu'on ne voulait pas avoir de traitement. Donc je pense que ça s'adressait au traitement qui allait passer dans la rue, sauf qu'après il y a un Canadair qui passe et qui asperge tout, donc c'est n'importe quoi en fait. Donc il y a aussi ce truc de, on veut, c'est, la situation est critique, là la situation était vraiment critique, c'est une lancéphalite équine, je crois, c'était la maladie qui était... la zoonose qui était présente sur le territoire, donc c'est quand même un truc un peu dangereux et tout. Mais voilà, on veut quand même laisser penser aux populations qu'elles ont contrôle sur leur espace intime, leur maison, leur jardin, mais bon, voilà. Donc moi, pour explorer ces hypothèses, bah, je vais créer en fait des documents fictifs simulant des éléments collectés dans mon dossier d'enquête. Donc ici, l'hypothèse va se matérialiser sous la forme d'un mandat de perquisition environnementale, illustrant à la fois que l'État peut instaurer de nouveaux services et lois, mais que le domicile pourrait être soumis à inspection. Ça, en vrai, c'est des choses qui existent déjà dans d'autres pays, mais là, j'en ai fait un à la française pour nous mettre un peu dans l'ambiance. Ensuite, un autre exemple, le conditionnement. Donc, après une expérience... au laboratoire de mon stage, en fait, on observait les larves. Une fois qu'on les avait identifiées, on devait les sectionner en deux pour les remettre à l'égout. Et je ne sais pas pourquoi, sectionner une larve en deux, ça me faisait de la peine, alors que je n'ai aucun mal à écraser un moustique. Mais du coup, je me suis questionnée, en fait, sur les manières dont nos gestes, en fait, sont conditionnés. Et j'ai alors imaginé les futurs gestes barrières communiquer lors d'une crise sanitaire sur le territoire, mais cette fois liée aux moustiques. Donc, à la fin de chaque notion, j'essaye de proposer un document projeté dans un futur proche. Donc, il y a des correspondances administratives, une photo d'enquête révélant une situation désastreuse, ou encore un bulletin météorologique intégrant un nouvel indicateur, la moustivergence. Donc, comme on voit là sur nos téléphones, qualité de l'air médiocre, peut-être qu'on aurait moustivergence niveau 3. Donc mon mémoire, il s'organise comme une enquête fragmentaire, mêlant texte, images, documents réels et fictifs. Et visuellement, en fait, j'ai choisi une esthétique noir et jaune en écho au code couleur des insecticides. Et le papier jaune pastel et la reliure d'archives, ça me permet de faire un écho au monde administratif. Donc la seule couleur qui est imprimée dans le mémoire, c'est le bleu. Parce qu'en fait, elle me permet de porter une attention particulière sur le sujet de l'eau, qui est vraiment l'élément central dans la prolifération du moustique. Et il y a des annotations écrites à la main qui ponctuent la lecture. Et en fait, ça ouvre un espace plus intime. Donc je raconte des discussions que j'ai pu avoir avec des agents ou juste des ressentis. Et voilà. Et aujourd'hui, en fait, ce travail... Julien, tu me demandais si j'avais développé des solutions. En fait, c'est un peu en cours avec une agence, là, sur la formalisation de services, en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, l'ARS, en panique face à ce sujet, fait appel à des agences spécialistes d'extermination du moustique. Mais il va y avoir... Enfin, va falloir attaquer le sujet par d'autres biais, en fait. Et on y réfléchit en ce moment... Voilà.
Merci.
Des questions ? Des questions ? Parce que toi, on sait que tu n'es pas possible.
Personne ne veut poser de questions ? Donc, du coup, dans quelle mesure des biohackers pourraient suivre les idées de modifier génétiquement des moustiques et pour essayer de les faire, soit de les faire disparaître, soit de les instrumentaliser. Enfin, tu n'as pas vu des hypothèses comme ça ?
Si, après, là, je n'ai pas parlé de tous les moyens utilisés en démoustication, mais en fait, actuellement, même sur le territoire, là, il y a des moustiques mâles qui sont stérilisés et qui sont remis par nuée dans la nature pour qu'ils pour faire tampon et essayer de.
Je reformule ma question. Est-ce qu'on pourrait cultiver les moustiques et faire des expériences ? Ça a l'air assez facile à reproduire. On voit les larves.
C'est super facile.
Et est-ce qu'on pourrait s'amuser à sélectionner des moustiques, à peut-être les modifier et relâcher des trucs.
À vos risques et périls. au laboratoire, on avait des moustiques. C'est très très simple. Il suffit d'avoir de l'eau et. Ouais, et surtout, enfin vraiment, le moustique tigre, il pond dans une quantité d'eau, mais c'est ridicule. Enfin, on a trouvé des larves pendant l'enquête. On en a trouvé dans un bouchon de bouteille. Enfin, c'est pour vous donner, mais aussi l'ampleur du problème en fait. Quand on pense à toutes les zones d'eau stagnante qu'on a en ville, ouais.
Mais je crois que la question d'Emmanuel, c'est de savoir si on peut utiliser le moustique pour vacciner massivement des populations.
Après, comment on fait tenir un vaccin ? Enfin, je sais. Là, j'avoue, ça me dépasse comme question, mais ouais.
Je ne vais pas
le
dire.
Ah ouais, d'accord.
Moi, j'ai une question sur quand vous avez trouvé le repère là sous le métro. T'as dit que vous avez trouvé genre.
Oui.
Tu peux nous raconter en termes de volume, de masse, enfin visuellement, ce que c'est qu'un immense repère à moustiques, quoi.
Mais là, je pense que c'était quand même un cas extrême, mais il y avait des milliers de moustiques en fait. Enfin, c'était. Après le volume là d'eau, c'était un couloir, je pense, qui faisait peut-être 5 mètres de long, avec du coup une rigole d'eau stagnante de 5 mètres sous les dalles. Et enfin, quand on est rentré, en fait, on n'a pas tout de suite vu tous les cadavres de moustiques le long des murs. Et on est allé jusqu'au bout du couloir où là, il y avait une zone de stockage qui était utilisée normalement par les agents de la gendarmerie, mais qui n'était plus utilisée à cause de ces dégâts des eaux, voilà. Et quand on est rentré, il y avait plein de toiles d'araignées, mais qui étaient remplies de moustiques. Enfin, c'était fascinant, quoi. C'était, ouais. Mais là, c'était vraiment des milliers et des milliers. Mais pour se dire, enfin, la dalle sous invalide, c'est quand même grand. Et là, tous ces agents ont vécu un été. Enfin, c'était catastrophique, quoi. Donc, ouais. Mais là, on parle d'un cas vraiment extrême. Mais il suffit d'avoir un pot de fleurs dans un jardin qui n'est pas vidé. Ça peut déjà être très embêtant pour toute la maison, voire les voisins, quoi. Enfin, ça... Les moustiques pondent toutes les semaines et ça se reproduit très vite et c'est des milliers d'œufs, donc ça va quand même très vite en volume par rapport à la quantité d'eau, donc faut vraiment. Enfin, je sais que là à la générale vous m'avez parlé de vos problèmes de moustiques, mais je pense que on va trouver facilement d'où ça vient. On voit une coupelle sous un pot de fleurs, on se dit mais non, ça vient pas de là et tout, mais en fait si, ça peut déjà suffire. Faut vraiment vider en fait toutes les eaux stagnantes, voilà. Mais ce qui pose problème en ville, c'est le manque de concurrence animale, parce que il y a, enfin, dans les marais et tout, il peut y avoir des nuées de moustiques, mais même il y a des, en fait il y a des, y a, parce que là j'ai fait une étude quand même très axée ville et tout, mais j'ai aussi rencontré des agents qui travaillent dans le Grand Est, et eux en fait par le sujet des moustiques, ils arrivent à faire financer des projets GEMAPI en fait, de gestion des eaux, réaménagement du territoire, parce que il y a des zones qui ont été isolés, et donc il y a trop peu d'espèces animales et végétales, et en fait ça crée des nuées de moustiques, et enfin tout ça révèle en fait aussi des déséquilibres. Quand une espèce prolifère, c'est qu'il y a un déséquilibre et que le territoire a été abîmé en fait.
Parce que si on veut lutter contre les moustiques en ville, en termes de géographie et d'urbanisme. Enfin, concrètement, qu'est-ce que ça implique ? Je me souviens qu'il y a quelques années, on avait parlé d'un truc où les oiseaux avaient du mal à rester en ville parce que tous les interstices, tous les orifices dans lesquels ils nichaient, ils pondaient et tout étaient bouchés petit à petit. Mmh. Est-ce que ça veut dire qu'en termes d'urbanisme, il faut vitrifier pour qu'il n'y ait plus un seul récipient, plus une seule surface creuse ? Ou est-ce que ça veut dire qu'au contraire, il faut faire de la porosité dans les sols pour que l'eau s'écoule ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
Il faut qu'il n'y ait plus d'eau stagnante. Mais il y a plein de choses qui ont été construites sans réfléchir à ce problème. Par exemple, toutes les terrasses en bois, là, avec... Enfin, ça, c'est... Mais ouais. Ouais. Et ben ça, c'est des zones où il y a vraiment systématiquement de l'eau stagnante sous le béton dessous. Donc, et ça, ça a été construit sans prendre conscience que ça allait être un problème plus tard. Et il faut plus d'oiseaux, en vrai. Donc, il faut faire des trous pour les oiseaux, parce que ils vont les manger. Mais ouais. Et quand même, enfin, ça va être galère, mais il va falloir s'y mettre parce que il faut le moins d'eau stagnante possible.
Ouais, moi j'ai mis. Oh, excuse-moi, attends. Je me suis accroché au pied de la table avec mon câble. Voilà. J'ai une question en fait, c'est-à-dire là ce que en fait la manière dont en fait s'est approché donc l'itinéraire que tu as suivi en fait dans la recherche, en fait on est effectivement au contact en fait des unités de prévention urbaines et on est comme dans un contexte un petit peu effectivement de combat interespèces. Il y a quand même tout un truc autour de l'éradication en fait, des zones, etc. De gestion, on voit aussi qu'il y a tout un truc de gestion, etc. Alors c'est étonnant parce que forcément ça pose un peu la... C'est vrai qu'en ce moment, dans la, on va dire, toutes les théories un petit peu, on va dire, latourienne autour en fait, de vivre avec le vivant, dans le contexte actuel qu'on est en train de traverser, en fait il y a un ensemble de théories qui viennent de traverser sur les alliances interespèces, etc. Et donc la question, je pense que ça rejoint un petit peu ce que disait Emmanuel, mais peut-être un petit peu sur un ton un peu moins, ou sur un plan un peu plus justement autour de des possibles en fait qui peuvent se... Et j'ai l'impression que déjà tu en parlais un petit peu sur le fait que dans la prolifération, en fait, il y a des manques, que en fait ça nous informe en fait à certains endroits. Ce que je voulais savoir, c'était un petit peu justement qu'est-ce qu'il y a d'autre en fait que cette gestion, on va dire, disciplinaire et de cette guerre interespèce ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme espace de discussion ? Est-ce qu'il y a des endroits où il y a des gens qui réfléchissent un peu plus, comment dire, sur d'autres méthodes que justement cette méthode un peu binaire en fait ? Et parce que j'ai l'impression qu'effectivement c'est une porte d'entrée super intéressante sur l'urbanisme et sur justement l'écologie, etc. Et qu'à cet endroit, en fait, comme on a une facilité en fait à classer tout de suite le moustique comme l'ennemi et comme en fait finalement une espèce nuisible à éradiquer, et justement oublier un peu son rôle. Justement, il y a ce côté qui est un peu moins saillant en fait de toutes ces réflexions. Et je voulais savoir un petit peu qu'est-ce que tu as pu un petit peu embrasser, puis quels sont aussi les endroits où ça réfléchit sur ces endroits-là, qui seraient pas une agence de prévention sanitaire en machin, mais justement on repense un petit peu différemment, je sais pas peut-être la gestion des espaces verts ou j'en sais rien, à quels endroits en fait effectivement ça pense un peu ces politiques-là différemment, quoi.
C'est vrai que j'ai pas rencontré de personnes pro moustiques dans toute ma recherche, ouais. Et c'est Julien, tu m'avais parlé d'une référence que j'étais allée voir, elle est dans mon mémoire d'ailleurs, il y a une interview du Dalai Lama où en fait il avoue qu'il écrase les moustiques. Et quand j'ai eu cette perspective, je me suis dit, ben mince, il n'y aura vraiment personne, quoi.
En Écosse,
il y a des gens.
Il y a des soutiens du.
Ah ouais ? Ah ben mince, j'aurais dû. Ok.
Mais je ne sais pas si le midge appartient à la catégorie des moustiques, mais les midges en Écosse, ils sont soutenus par plein de gens qui partent du principe qu'ils protègent les tourbières. C'est-à-dire qu'en rendant les zones de tourbières inhabitables, ils protègent les écosystèmes.
Ouais, marrant. Ouais, un peu comme cette histoire de Gemapi financée parce que... La ville, c'est un problème, les moustiques pour le tourisme. Du coup, OK, on finance votre truc. Enfin, du coup, c'est... Mais c'est vrai que j'ai peu de solutions. J'ai peu croisé de personnes qui m'ont parlé de choses. Après, oui, mon mémoire, il est quand même très axé gestion parce que voilà, je savais où je voulais en arriver à la fin sur enfin, les services que je voulais essayer de développer. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est quand même faire de la médiation pour que les eaux stagnantes soient vidées et qu'il y ait du moustique, mais moins. Et que, parce qu'en fait, je pense que ce qui est révélateur, c'est que le moustique, c'est des situations qui dégénèrent très vite parce qu'il pond très vite. Et que du coup, quand il y en a trop, c'est qu'il y a un déséquilibre et ça nous permet de cerner où est le déséquilibre. Donc il faut peut-être... Il y a des gens qui l'emploient comme... Enfin, qui parlent du moustique comme voilà, des indicateurs de... Mais ouais. Voilà, c'est ça.
Est-ce que t'as trouvé la réponse à ta question de pourquoi tu te fais plus piquer que les autres ou c'est resté sur des légendes et des mythes?
Alors j'ai fait un répertoire de mythes et de légendes dans le mémoire, mais ça je me suis un peu renseignée et apparemment ça viendrait les personnes qui se font plus piquer rejetteraient une qualité de CO2 excellente, donc je suis très flattée, mais du coup ça, c'est aussi pour ça que peut-être dans ce que j'ai lu et ce qu'on m'a raconté, les femmes enceintes se font plus piquer, quand on fait du sport on se fait plus piquer, du coup voilà, ça viendrait de là, parce qu'en fait je vous ai parlé des capteurs thermiques des moustiques, mais ils ont aussi ils captent en fait le rejet de CO2, c'est comme ça qu'ils identifient aussi la présence humaine. Il existe des dispositifs qui rejettent du CO2 pour attirer les moustiques et les piéger. Ça, il y en a qui sont installés. Mais ça marche en fait très peu parce que c'est sûr que ça va capturer des moustiques, mais ça ne règle pas du tout. Ce n'est qu'une portion parmi tout ce qui a été pondu. Donc ça ne marche pas vraiment. Mais... Ouais.
Et on sait, ouais, pareil, les trucs qu'on se met. Parce que moi, je repense, gamin, il y avait les espèces de pastilles qui étaient foutues dans le machin qu'on mettait dans la prise. Ouais. Et on dormait avec ce truc-là. Et après, le truc le plus hardcore que j'avais vu, c'était écran.
Ah ouais.
Machin pour aller, genre, quand tu veux.
Ouais, les répulsifs.
Et du coup, tu mets du écran sur
le
toi.
Le 5-5 tropique.
Tu sens que ta peau, elle te dit, t'as fait quelque chose de bizarre.
Oui,
en
oui.
Fait.
Tout poisseux. Oui. En discutant avec les agents aussi, tout ce qui est planté, de la citronnelle ou des trucs un peu comme ça, et bon, on n'y croit pas vraiment. Enfin, je pense que ces produits-là, ils arrivent à faire quand même écran, justement, mais c'est nocif. Enfin, c'est la cata de mettre ça aussi. Mais apparemment, il y a une solution qui marche très bien, c'est de faire brûler du café. Mais pas de la mare de café, genre vraiment du café. Il y a plein de gens qui m'ont dit que ça marchait bien. Mais oui, il y a plein de mythes, comme on peut avoir des applications à ultrasons sur le téléphone pour faire fuir les moustiques. Bon, ça marche pas, j'ai essayé, mais... ouais.
Il y a une question de la radio.
Une question internet.
C'est une question locale. C'est une question à moi. J'avais une question parce que j'entends Bamako, puis... brûler le café et tout, je me dis en fait là où effectivement ça fait pas mal de temps que en fait des problèmes de moustiques sont avérés, moi j'ai rencontré ça plutôt à Dakar par exemple, ici c'est des choses qui arrivent par les pneus de manière problématique depuis moins longtemps, le palu et tout ça, ça a été ce que je voulais dire, la question que je voulais poser, c'est est-ce que dans ces études on va aller chercher des expertises de pays ou de régions, de zones qui sont plus touchées depuis plus longtemps et qui ont forcément un savoir-faire autre, différent.
C'est vrai que, alors évidemment, oui, c'est des problématiques qui sont présentes ailleurs depuis bien plus longtemps. Moi, j'ai peu exploré, je suis pas du tout allée sur d'autres terrains. J'ai lu des articles et tout, mais j'ai pas voilà. Mais par contre, ce que j'ai découvert, c'est que le paludisme, c'était présent en France il y a très longtemps, et on peut même voir, c'est en Corse par exemple. Il y a En fait, avant, ça ne se faisait pas de vivre près de la plage. Il y avait des zones marécageuses, en fait. Et c'était l'été, on avait l'habitude d'aller vivre dans les montagnes à cause, justement, de la présence de ces moustiques. Et même ce qu'on appelle malaria, en fait, ça veut dire mauvais air. Et on pensait que les émanations des marées causaient les maladies. En fait, on n'arrivait pas à identifier que c'était les moustiques. Et quand on a asséché ces zones, ça a complètement redéveloppé l'espace en Corse. Et maintenant, il y a des villes dans ces zones-là. Mais du coup, on va dire que les solutions que j'ai repérées sur le territoire, c'était celles des assèchements, mais qui en sont des fausses parce que ça cause d'autres problèmes. On perd des espèces. Mais ouais, j'ai pas du tout assez exploré à l'étranger. Ça sera à faire vraiment. J'avais un témoignage d'une personne en Guadeloupe, mais c'était plus du coup un témoignage qui me parlait de la crise que c'était. C'était pendant le Covid, en fait. Il y a eu des épidémies, je crois que c'était le palu. Et elle me raconte, elle était enseignante au collège, elle a une élève qui est décédée. Enfin, les situations sont vraiment hyper critiques. Et là, on était dans des zones où les gens, en fait, ont l'habitude de collecter de l'eau chez eux parce qu'il y a souvent des coupures d'eau. Donc tout le monde a de l'eau stagnante chez soi. Et ouais. Donc oui, il y a des zones où la situation est déjà archi-critique.
Je vois que tu as une question qui me brûle les lèvres. Oui. Je te remercie beaucoup. Parce que grâce à toi, j'ai découvert la société Torgnole.
Qu'est-ce que c'est?
Non, ce n'est pas une blague. Honnêtement, franchement, j'ai cru que c'était une blague, mais ce n'est pas une blague. Torgnole, Tornyol. C'est une start-up soutenue par le Y Combinator. Vous voyez ce que c'est le Y Combinator? C'est un incubateur de start-up de la Silicon Valley très connu. Sam Altman, etc., etc. Et donc, que fait la société Torgnole, qui est fondée par deux Français, évidemment, avec un nom pareil, Alex Toussaint et Clovis Piedalu? Il propose des drones autonomes qui pèsent 40 grammes dans une petite base de chargement qui vont protéger jusqu'à l'équivalent d'un stade de foot avec donc des capteurs sonores et avec un traitement du signal. Ils savent repérer le bruit du moustique et ensuite ils vont le broyer dans les hélices du drone.
Incroyable.
Voilà. Alors c'est assez cher, c'est un abonnement de $50 par mois.
Ça reste
intéressant.
Et si
tu veux acheter la machine, c'est $1,100 pour avoir la machine à la maison. C'est assez cher. C'est un tout petit drone minuscule.
Ouais.
Et ils ont l'air de dire qu'une seule machine est capable de désinfecter une zone assez grande de la taille d'un stade de foot. Voilà. Donc, Torgnole, ça n'a pas l'air d'être une blague. Ça ressemble à Ogorafi. Hein, mais je vous garantis, c'est vrai.
Oui. Mais encore une fois, traiter les moustiques adultes, c'est une solution très, très temporaire. La semaine suivante, la quantité revient, quoi. Mais ouais, ben, trop drôle, cette histoire.
Mais pour le capitalisme, c'est pareil, toi, c'est,
ouais.
C'est super. T'as toujours besoin de ta torgnole.
C'est vrai.
Une micro-intervention pour dire aussi que le terrain du moustique, c'est le terrain privilégié, en fait, des... notamment des lobbies en fait qui veulent vendre des insecticides et notamment ça a permis en fait de faire une offensive contre les théories de Rachel Carson, donc Rachel Carson qui a écrit
Printemps silencieux
dans les années 50-60, qui est devenue un peu la référence du mouvement environnementaliste américain. Et qu'il y a eu une recrudescence en fait de contestation parce que son bouquin a permis de faire une loi pour limiter un petit peu la prolifération des pesticides parce que c'était mauvais pour la santé, etc. Et elle le décrit très bien dans son bouquin de manière super détaillée. Et c'est une figure qui était très critiquée à son époque parce que c'était une femme, les milieux industriels en fait sont vraiment lâchés sur elle. Et donc là, il y a une recrudescence et en fait ils prennent le moustique comme un angle d'attaque pour relancer une deuxième offensive contre elle. Donc 50 ans après quoi. Donc voilà, tout ça pour dire aussi que le moustique c'est aussi un endroit de bataille assez féroce en ce moment sur ce sujet-là quoi. Avec beaucoup de scientifiques d'ailleurs qui sont impliqués dedans. On ne les remercie pas.
S'il n'y a plus de questions, on va conclure. Enfin, on va arrêter, en fait. On ne va pas conclure, parce qu'il n'y a pas de conclusion. Enfin, sauf si tu veux nous donner une conclusion. Bon, bah, merci beaucoup.
Merci.
Et à mardi prochain.
Il y a un gratin, poireau avec nouilles. Voilà, c'est expérimental. On va goûter ça tout de suite. Il y en a en deux versions. Est-ce qu'il y a des gens qui sont véganes parmi vous?
C'est hyper. Ah ouais, sinon ton objet il est hyper beau.
Ouais,
ouais, enfin je voyais. J'ai pas osé trop jouer avec et tout. Mais non, mais je. Ouais, mais parce que. Enfin, même dans l'écran et tout, ça apparaissait et tout. C'est ultra chialé quoi. C'est
un typo. Un des types.